Chapitre 12. Le logis de Maître René, le parfumeur de la Reine-Mère, les poules noires. À l'époque où se passe l'histoire que nous racontons à nos lecteurs, il n'existait pour passer d'une partie de la ville à l'autre que 5 ponts, les uns de pierre, les autres de bois. Encore ces 5 ponts aboutissaient-ils à la cité? C'était le pont des Meuniers, le pont au Change, le pont Notre-Dame, le Petit Pont et le pont Saint-Michel. Aux autres endroits où la circulation était nécessaire, des bacs étaient établis et, tant bien que mal, remplaçaient les ponts. Ces 5 ponts étaient garnis de maisons, comme l'est encore aujourd'hui le Ponte Vecchio à Florence. Parmi ces 5 ponts, qui chacun ont leur histoire, nous nous occuperons particulièrement pour le moment du pont Saint-Michel. Le pont Saint-Michel avait été bâti en pierre en 1373. Malgré son apparente solidité, un débordement de la Seine le renversa en partie le 31 janvier 1408. En 1416, il avait été reconstruit en bois, mais pendant la nuit du 16 décembre 1547, il avait été emporté de nouveau. Vers 1550, c'est-à-dire 22 ans avant l'époque où nous sommes arrivés, on le reconstruisit en bois, et quoiqu'on eût déjà eu besoin de le réparer, il passait pour assez solide. Au milieu des maisons qui bordaient la ligne du pont, faisant face au petit îlot sur lequel avaient été brûlés les Templiers, et où pose aujourd'hui le terre-plein du pont neuf, on remarquait une maison à panneaux de bois sur laquelle un large toit s'abaissait comme la paupière d'un œil immense. À la seule fenêtre qui s'ouvrait au premier étage, au-dessus d'une fenêtre et d'une porte de rez-de-chaussée hermétiquement fermée, transparaissait une lueur rougeâtre qui attirait les regards des passants sur la façade basse, large, peinte en bleu, avec de riches moulures dorées. Une espèce de frise qui séparait le rez-de-chaussée du premier étage représentait une foule de diables dans des attitudes plus grotesques les unes que les autres, et un large ruban, peint en bleu comme la façade, s'étendait entre la frise et la fenêtre du premier, avec cette inscription « René Florentin, parfumeur de Sa Majesté la Reine-Mère ». La porte de cette boutique, comme nous l'avons dit, était bien verrouillée. Mais mieux que par ses verrous, elle était défendue des attaques nocturnes par la réputation si effrayante de son locataire que les passants qui traversaient le pont à cet endroit le traversaient presque toujours en décrivant une courbe qui les rejetait vers l'autre rang de maison, comme s'ils eussent redouté que l'odeur des parfums ne suât jusqu'à eux par la muraille. Il y avait plus. Les voisins de droite et de gauche, craignant sans doute d'être compromis par le voisinage, avaient, depuis l'installation de Maître René sur le pont Saint-Michel, déguerpi l'un et l'autre de leur logis, de sorte que les deux maisons attenantes à la maison de René étaient demeurées désertes et fermées. Cependant, malgré cette solitude et cet abandon, des passants attardés avaient vu jaillir à travers les contrevents fermés de ces maisons vides certains rayons de lumière, et assuraient avoir entendu certains bruits pareils à des plaintes qui prouvaient que des êtres quelconques fréquentaient ces deux maisons. Seulement, on ignorait si ces êtres appartenaient à ce monde ou à l'autre. Il en résultait que les locataires des deux maisons attenantes aux deux maisons désertes se demandaient de temps en temps s'il ne serait pas prudent à eux de faire à leur tour comme leurs voisins avaient fait. C'est sans doute à ce privilège de terreur qui lui était publiquement acquis que Maître René avait dû de conserver seul du feu après l'heure consacrée. Ni ronde, ni guet n'eût osé d'ailleurs inquiéter un homme doublement cher à Sa Majesté en sa qualité de compatriote et de parfumeur. Comme nous supposons que le lecteur cuirassé par le philosophisme du XVIIIe siècle ne croit plus ni à la magie ni aux magiciens, nous l'inviterons à entrer avec nous dans cette habitation qui, à cette époque de superstitieuses croyances, répandait autour d'elle un si profond effroi. La boutique du rez-de-chaussée est sombre et déserte à partir de 8 heures du soir, moment auquel elle se ferme pour ne plus rouvrir qu'assez avant quelquefois dans la journée du lendemain. C'est là que se fait la vente quotidienne des parfums, des onguents et des cosmétiques de tout genre que débite l'habile chimiste. Deux apprentis l'aident dans cette vente de détail, mais ils ne couchent pas dans la maison, ils couchent rue de la Calandre. Le soir, ils sortent un instant avant que la boutique soit fermée. Le matin, ils se promènent devant la porte jusqu'à ce que la boutique soit ouverte. Cette boutique du rez-de-chaussée est donc, comme nous l'avons dit, sombre et déserte. Dans cette boutique, assez large et assez profonde, il y a deux portes, chacune donnant sur un escalier. Un des escaliers rampe dans la muraille même et il est latéral, l'autre est extérieur et est visible du quai qu'on appelle aujourd'hui le quai des Augustins et de la berge qu'on appelle aujourd'hui le quai des Orfèvres. Tous deux conduisent à la chambre du premier. Cette chambre est de la même grandeur que celle du rez-de-chaussée, seulement une tapisserie tendue dans le sens du pont la sépare en deux compartiments. Au fond du premier compartiment s'ouvre la porte donnant sur l'escalier extérieur. Sur la façade latérale du second s'ouvre la porte de l'escalier secret. Seulement, cette porte est invisible car elle est cachée par une haute armoire sculptée, scellée à elle par des crampons de fer et qu'elle pousse en s'ouvrant. Catherine seule connaît avec René le secret de cette porte. C'est par là qu'elle monte et qu'elle descend. C'est l'oreille ou l'œil posé contre cette armoire dans laquelle des trous sont ménagés qu'elle l'écoute et qu'elle voit ce qui se passe dans la chambre. Deux autres portes parfaitement ostensibles s'offrent encore sur les côtés latéraux de ce second compartiment. L'une s'ouvre sur une petite chambre éclairée par le toit et qui n'a pour tout meuble qu'un vaste fourneau, des cornues, des alambics, des creusets. C'est le laboratoire de l'alchimiste. L'autre s'ouvre sur une cellule plus bizarre que le reste de l'appartement, car elle n'est point éclairée du tout, et elle n'a ni tapis, ni meubles, mais seulement une sorte d'autel de pierre. Le parquet est une dalle inclinée, du centre aux extrémités, et aux extrémités court, au pied du mur, une espèce de rigole, aboutissant à un entonnoir, par l'orifice duquel on voit couler l'eau sombre de la Seine. À des clous enfoncés dans la muraille sont suspendus des instruments de forme bizarre, tous aigus ou tranchants. La pointe en est fine comme celle d'une aiguille, le fil en est tranchant comme celui d'un rasoir. Les uns brillent comme des miroirs, les autres, au contraire, sont d'un gris mat ou d'un bleu sombre. Dans un coin, deux poules noires se débattent, attachées l'une à l'autre par la patte. C'est le sanctuaire de l'augure. Revenons à la chambre du milieu, à la chambre aux deux compartiments. C'est là qu'est introduit le vulgaire des consultants. C'est là que les ibis égyptiens, les momies aux bandelettes dorées, le crocodile bâillant au plafond, les têtes de mort aux yeux vides et aux dents branlantes, enfin les bouquins poudreux vénérablement rongés par les rats, offrent à l'œil du visiteur le pêle-mêle d'où résultent les émotions diverses qui empêchent la pensée de suivre son droit chemin. Derrière le rideau sont des fioles, des boîtes particulières, des amphores à l'aspect sinistre. Tout ça est éclairé par deux petites lampes d'argent, exactement pareilles, qui semblent enlevées à quelque hôtel de Santa Maria Novella ou de l'église dei Nervi de Florence, et qui, brûlant une huile parfumée, jettent leur clarté jaunâtre du haut de la voûte sombre, où chacune est suspendue par trois chaînettes noircies. René, seul et les bras croisés, se promène à grands pas dans le second appartement de la chambre du milieu en secouant la tête. Après une méditation longue et douloureuse, il s'arrête devant un sablier. « Ah, dit-il, j'ai oublié de le retourner, et voilà que depuis longtemps peut-être tout le sable est passé. » Alors, regardant la lune qui se dégage à peine d'un grand nuage noir qui semble peser sur la pointe du clocher de Notre-Dame, « 9 heures, dit-il, si elle viendra comme d'habitude dans 1 heure ou 1 heure et demie. Il y aura donc temps pour tout. » En ce moment, on entendit quelques bruits sur le pont. René appliqua son oreille à l'orifice d'un long tuyau dont l'autre extrémité allait s'ouvrir sur la rue sous la forme d'une tête de guivre. « Non, dit-il, ce n'est ni elle au pluriel. » Ce sont des pas d'hommes, ils s'arrêtent devant ma porte, ils viennent ici. » En même temps, 3 coups secs retentirent. René descendit rapidement, cependant il se contenta d'appuyer son oreille contre la porte sans ouvrir encore. Les 3 mêmes coups secs se renouvelèrent. « Qui va là ?» demanda maître René. « Est-il bien nécessaire de dire nos noms ?» demanda une voix. « C'est indispensable, » répondit René. « En ce cas, je me nomme le comte Hannibal de Coconas, » dit la même voix qui avait déjà parlé. « Et moi, le comte Lérac de la Mole, » dit une autre voix qui, pour la première fois, se faisait entendre. « Attendez, messieurs, je suis à vous. » Et en même temps, René, tirant les verrous, enlevant les barres, ouvrit aux deux jeunes gens la porte qu'il se contenta de fermer à la clé. Puis, les conduisant par l'escalier extérieur, il les introduisit dans le second compartiment. La Mole, en entrant, fit le signe de la croix sous son manteau. Il était pâle et sa main tremblait sans qu'il pût réprimer cette faiblesse. Coconas regarda chaque chose, l'une après l'autre, et trouvant au milieu de son examen la porte de la cellule, il voulut l'ouvrir. « Permettez, mon gentilhomme, » dit René de sa voix grave et en posant sa main sur celle de Coconas. « Les visiteurs qui me font l'honneur d'entrer ici n'ont la jouissance que de cette partie de la chambre. » « Ah, c'est différent, » reprit Coconas, « et d'ailleurs, je sens que j'ai besoin de m'asseoir. » Et il se laissa aller sur une chaise. Il se fit un instant de profond silence. Maître René attendait que l'un ou l'autre des deux jeunes gens s'expliquât. Pendant ce temps, on entendait la respiration sifflante de Coconas, encore mal guéri. « Maître René, dit-il enfin, vous êtes un habile homme. Dites-moi donc si je demeurerai estropié de ma blessure, c'est-à-dire si j'aurai toujours cette courte respiration qui m'empêche de monter à cheval, de faire des armes et de manger des omelettes au lard. » René approcha son oreille de la poitrine de Coconas et écouta attentivement le jeu des poumons. « Non, monsieur le comte, dit-il, vous guérirez. En vérité, je vous l'affirme. Ah, vous me faites plaisir. » Il se fit un nouveau silence. Ne désirez-vous pas savoir encore autre chose, monsieur le comte? Si fait, dit Coconas, je désire savoir si je suis véritablement amoureux. Vous l'êtes, dit René. Et comment le savez-vous? Parce que vous me le demandez. Eh, mordi, je crois que vous avez raison, mais de qui? De celle qui dit maintenant à tout propos le juron que vous venez de dire. « En vérité, » dit Coconas, stupéfait, « ah, maître René, vous êtes un habile homme. À ton tour, la Mole. » La Mole rougit et demeura embarrassée. « Eh, que diable, » dit Coconas, « parle donc. »« Parlez, » dit le Florentin. « Moi, monsieur René, » balbutia la Mole, dont la voix se rassura peu à peu, « je ne vais pas vous demander si je suis amoureux, car je sais que je le suis, et je ne m'en cache point, mais... » Dites-moi si je serai aimé, car en vérité, tout ce qui m'était d'abord un sujet d'espoir tourne maintenant contre moi. Vous n'avez peut-être pas fait tout ce qu'il faut faire pour cela. Qu'y a-t-il à faire, monsieur, qu'à prouver par son respect et son dévouement à la dame de ses pensées qu'elle est véritablement et profondément aimée? Vous savez, dit René, que ces démonstrations sont parfois bien insignifiantes. Alors, il faut désespérer. Non, alors il faut recourir à la science. Il y a dans la nature humaine des antipathies qu'on peut vaincre, des sympathies qu'on peut forcer. Le fer n'est pas l'aimant, mais en l'aimantant à son tour, il attire le fer. Ah, sans doute, murmura la Mole, mais je répugne à toutes ces conjurations. Ah, si vous répugniez, dit René, alors il ne fallait pas venir. « allons donc, dit Coconas, vas-tu faire l'enfant à présent? Monsieur René, pouvez-vous me faire voir le diable? » « Non, monsieur le comte. Ah, j'en suis fâché, j'avais de moi à lui dire, et cela eût peut-être encouragé la Mole. » « Eh bien, soit, dit la Mole, abordons franchement la question. On m'a parlé de figures en cire modelées à la ressemblance de l'objet aimé, est-ce un moyen ?»« Infaillible. » Et rien dans cette expérience ne peut porter atteinte à la vie ni à la santé de la personne qu'on aime. Rien. Essayons alors. Veux-tu que je commence, dit Coconas? Non, dit la Mole, et puisque me voilà engagé, j'irai jusqu'au bout. Désirez-vous beaucoup, ardemment, impérieusement, savoir à quoi vous en tenir, monsieur de la Mole? Demanda le Florentin. Oh, s'écria la Mole, j'en meurs, maître René. Au même moment, on heurta doucement à la porte de la rue, si doucement que maître René entendit seul ce bruit, et encore parce qu'il s'y attendait sans doute. Il approcha, sans affectation, et tout en faisant quelques questions oiseuses à la Mole, son oreille du tuyau et perçut quelques éclats de voix qui parurent le fixer. « Résumez donc maintenant votre désir, dit-il, et appelez la personne que vous aimez. » La Mole s'agenouilla comme s'il eût parlé à une divinité, et René, passant dans le premier compartiment, glissa sans bruit par l'escalier extérieur. Un instant après, des pas légers effleuraient le plancher de la boutique. La mole, en se relevant, vit devant lui Maître René. Le Florentin tenait à la main une petite figure de cire d'un travail assez médiocre. Elle portait une couronne et un manteau. « Voulez-vous toujours être aimé de votre royale maîtresse ?» demanda le parfumeur. « Oui, dût-il m'en coûter la vie, dussé-je perdre mon âme ?» répondit la mole. « C'est bien, » dit le Florentin en prenant du bout des doigts quelques gouttes d'eau dans une aiguillère et en les secouant sur la tête de la figurine en prononçant quelques mots latins. La mole frissonna. Il comprit qu'un sacrilège s'accomplissait. « Que faites-vous » demanda-t-il. « Je baptise cette petite figurine du nom de Marguerite. Mais dans quel but ?»« Pour établir la sympathie. » La mole ouvrait la bouche pour l'empêcher d'aller plus avant, mais un regard railleur de Coconas l'arrêta. René, qui avait vu le mouvement, attendit. « Il faut la pleine et entière volonté, » dit-il. « Faites, » répondit la mole. René traça sur une petite banderole de papier rouge quelques caractères cabalistiques, les passa dans une aiguille d'acier et avec cette aiguille piqua la statuette au cœur. Chose étrange, à l'orifice de la blessure apparut une gouttelette de sang, puis il mit le feu au papier. La chaleur de l'aiguille fit fondre la cire autour d'elle et sécha la gouttelette de sang. « Ainsi, dit René, par la force de la sympathie, votre amour percera et brûlera le cœur de la femme que vous aimez. » Coconas, en sa qualité d'esprit fort, riait dans sa moustache et raillait tout bas. Mais la mole, aimant et superstitieux, sentait une sueur glacée perler à la racine de ses cheveux. « Et maintenant, dit René, appuyez vos lèvres sur les lèvres de la statuette en disant « Marguerite, je t'aime, viens, Marguerite. » La mole obéit. En ce moment, on entendit ouvrir la porte de la seconde chambre et des pas légers approchèrent. Coconas, curieux et incrédule, tira son poignard et, craignant s'il tentait de soulever la tapisserie que René ne lui fit la même observation que lorsqu'il voulut ouvrir la porte, fendit avec son poignard l'épaisse tapisserie et, ayant appliqué son œil à l'ouverture, poussa un cri d'étonnement auquel deux femmes répondirent. « Qu'y a-t-il ? » demanda la mole, prêt à laisser tomber la figure de cire que René lui reprit des mains. « Il y a, » reprit Coconas, « que la duchesse de Nevers et Madame Marguerite sont là. »« Eh bien, incrédule, » dit René avec un sourire austère, « doutez-vous encore de la force de la sympathie ?» La mole était restée pétrifiée en apercevant sa reine. Coconas avait eu un moment d'éblouissement en reconnaissant Madame de Nevers. Pendant que la mole se signait et soupirait à fendre des quartiers de roc, Coconas, qui avait eu tout le temps de se faire des questions philosophiques et de chasser l'esprit malin à l'aide de ce goupillon qu'on appelle l'incrédulité, Coconas, voyant par l'ouverture du rideau fermé l'ébahissement de Madame de Nevers et le sourire un peu caustique de Marguerite, jugea que le moment était décisif, et comprenant que l'on peut dire pour un ami ce que l'on ose dire pour soi-même, au lieu d'aller dire à Madame de Nevers, il alla droit à Marguerite, et mettant un genou en terre à la façon dont était représenté dans les parades de foire le grand Artaxerce, il s'écria d'une voix à laquelle le sifflement de sa blessure donnait un certain accent qui ne manquait pas de puissance, « Madame, à l'instant même, sur la demande de mon ami le comte de la Mole, Maître René évoquait votre ombre. Or, à mon grand étonnement, votre ombre est apparue accompagnée d'un corps qui m'est bien cher et que je recommande à mon ami. Ombre de sa majesté, la reine de Navarre, voulez-vous bien dire au corps de votre compagne de passer de l'autre côté du rideau ?» Marguerite se mit à rire et fit signe à Henriette qui passa de l'autre côté. « La mole, mon ami, dit Coconas, sois éloquent comme Démosthène, comme Cicéron, comme monsieur le chancelier de l'hôpital, et songe qu'il y va de ma vie si tu ne persuades pas au corps de madame la duchesse de Nevers que je suis son plus dévoué, son plus obéissant et son plus fidèle serviteur. »« Mais, balbutia la mole, fais ce que je te dis, et vous, maître René, veillez à ce que personne ne nous dérange. » René fit ce que lui demandait Coconas. « Mordi, monsieur, dit Marguerite, vous êtes homme d'esprit, je vous écoute, voyons, qu'avez-vous à me dire ? J'ai à vous dire, madame, que l'ombre de mon amie, car c'est une ombre, et la preuve, c'est qu'elle ne prononce pas le plus petit mot, j'ai donc à vous dire que cette ombre me supplie d'user de la faculté qu'ont les corps de parler intelligemment pour vous dire, belle ombre, le gentilhomme, ainsi excorporé, a perdu tout son corps et tout son souffle par la rigueur de vos yeux. Si vous étiez vous-même, je demanderais à Maître René de m'abîmer dans quelque trou sulfureux plutôt que de tenir pareil langage à la fille du roi Henri II, à la sœur du roi Charles IX, à l'épouse du roi de Navarre. Mais les ombres sont dégagées de tout orgueil terrestre et elles ne se fâchent pas quand on les aime. Or, priez votre corps, madame, d'aimer un peu l'âme de ce pauvre Lamolle. Âme en peine s'il en fut jamais, âme persécutée d'abord par l'amitié, qui lui a à trois reprises enfoncé plusieurs pouces de fer dans le ventre, âme brûlée par le feu de vos yeux, feu mille fois plus dévorant que tous les feux de l'enfer. Ayez donc pitié de cette pauvre âme, aimez un peu ce qui fut le beau Lamolle, et si vous n'avez plus la parole, usez du geste, usez du sourire. C'est une âme fort intelligente que celle de mon ami, et elle comprendra tout. » À cette péroraison de Coconas, qui s'était campée devant la reine en aînée descendante aux enfers, Marguerite ne put retenir un énorme éclat de rire, et tout en gardant le silence qui convenait en pareille occasion à une ombre royale, elle tendit la main vers Coconas. Celui-ci la reçut délicatement dans la sienne, en appelant Lamolle. « Ombre de mon ami ! » s'écria-t-il, « venez à l'instant même !» Lamolle, tout stupéfait et tout palpitant, obéit. « C'est bien, » dit Coconas en le prenant par derrière la tête. « Maintenant, approchez la vapeur de votre beau visage brun de la blanche et vaporeuse main que voici. » Et Coconas, joignant le geste aux paroles, unit cette fine main à la bouche de Lamolle et les retint un instant, respectueusement appuyées l'une sur l'autre, sans que la main essayât de se dégager de la douce étreinte. Marguerite n'avait pas cessé de sourire, mais Madame de Nevers ne souriait pas, elle, encore tremblante de l'apparition inattendue des deux gentilshommes. Elle sentait augmenter son malaise et toute la fièvre d'une jalousie naissante, car il lui semblait que Coconas n'eût pas dû oublier ainsi ses affaires pour celles des autres. Lamolle vit la contraction de son sourcil, surprit l'éclair menaçant de ses yeux, et malgré le trouble enivrant où la volupté lui conseillait de s'engourdir, il comprit le danger que courait son ami et devina ce qu'il devait tenter pour l'y soustraire. Se levant donc, et laissant la main de Marguerite dans celle de Coconas, il alla saisir celle de la duchesse de Nevers, et mettant un genou par terre, « Oh, la plus belle, oh, la plus adorable des femmes, dit-il, je parle des femmes vivantes et non des ombres, » et il adressa un regard et un sourire à Marguerite, « permettez à une âme dégagée de son enveloppe grossière de réparer les absences d'un corps tout absorbé par une amitié matérielle. Monsieur de Coconas, que vous voyez, n'est qu'un homme, d'une structure ferme et hardie, c'est une chair belle à voir peut-être, mais périssable comme toute chair. » Omnis caro fenum. Bien que ce gentilhomme m'adresse du matin au soir des litanies les plus suppliantes à votre sujet, bien que vous l'ayez vu distribuer les plus rudes coups que l'on ait jamais fournis en France, ce champion, si fort en éloquence près du nombre, n'ose parler à une femme. C'est pour cela qu'il s'est adressé à l'ombre de la reine et me chargeant, moi, de parler à votre beau corps, de vous dire qu'il dépose à vos pieds son cœur et son âme, qu'il demande à vos yeux divins de le regarder en pitié, à vos doigts roses et brûlants de l'appeler d'un signe, à votre voix vibrante et harmonieuse de lui dire de ces mots qu'on n'oublie pas, ou sinon il m'a prié d'une chose, c'est dans le cas où il ne pourrait vous attendrir de lui passer pour la seconde fois mon épée, qui est une lame véritable, les épées n'ont d'ombre qu'au soleil, de lui passer, dis-je pour la seconde fois, mon épée au travers du corps, car il ne saurait vivre si vous ne l'autorisez à vivre exclusivement pour vous. » Autant Coconas avait mis de verve et de pantalonnade dans son discours, autant Lamolle venait de déployer de sensibilité, de puissance enivrante et de câline humilité dans sa supplique. Les yeux d'Henriette se détournèrent alors de la Mole, qu'elle avait écoutée tout le temps qu'il venait de parler, et se portèrent sur Coconas pour voir si l'expression du visage du gentilhomme était en harmonie avec l'oraison amoureuse de son amie. Il paraît qu'elle en fut satisfaite, car, rouge, haletante, vaincue, elle dit à Coconas avec un sourire qui découvrait une double rangée de perles enchâssées dans le corail, « Est-ce vrai ?»« Mordi !» s'écria Coconas, fasciné par ce regard, et brûlant des feux du même fluide, « C'est vrai, ah oui, madame, c'est vrai, vrai sur votre vie, vrai sur ma mort !»« Alors venez donc, » dit Henriette en lui tendant la main, avec un abandon qui trahissait la langueur de ses yeux. Coconas jeta en l'air son toquet de velours et d'un bond fut près de la jeune femme, tandis que la Mole, rappelée de son côté par un geste de Marguerite, faisait avec son ami un chassé-croisé amoureux. En ce moment, René apparut à la porte du fond. « Silence !» s'écria-t-il, avec un accent qui éteignit toute flamme. « Silence !» Et l'on entendit, dans l'épaisseur de la muraille, le frôlement du fer grinçant dans une serrure et le cri d'une porte roulant sur ses gonds. « Mais, dit Marguerite fièrement, il me semble que personne n'a le droit d'entrer ici quand nous y sommes. »« Pas même la reine-mère, murmura René à son oreille. Marguerite s'élança aussitôt par l'escalier extérieur, attirant la Mole après elle. Henriette et Coconas, à demi enlacés, s'enfuirent sur leurs traces, tous quatre s'envolant, comme s'envolent au premier bruit indiscret les oiseaux gracieux qu'on a vus se becqueter sur une branche en fleurs. Il était temps que les deux couples disparussent. Catherine mettait la clé dans la serrure de la seconde porte au moment où Coconas et Madame de Nevers sortaient par l'issue du fond, et Catherine, en entrant, put entendre le craquement de l'escalier sous les pas des fugitifs. Elle jeta autour d'elle un regard inquisiteur et arrêta enfin son œil soupçonneux sur René, qui se trouvait debout et incliné devant elle. « Qui est là ? » demanda-t-elle. « Des amants qui se sont contentés de ma parole quand je leur ai assuré qu'ils s'aimaient. « Ah, laissons cela, » dit Catherine en haussant les épaules. « N'y a-t-il plus personne ici ?»« Personne que votre majesté et moi. « Avez-vous fait ce que je vous ai dit ?»« À propos des poules noires ?»« Oui. » « Elles sont prêtes, madame. »« Ah, si vous étiez juif, » murmura Catherine. « Moi, juif, madame, pourquoi ?»« Parce que vous pourriez lire les livres précieux qu'ont écrits les Hébreux sur les sacrifices. Je me suis fait traduire l'un d'eux et j'ai vu que ce n'était ni dans le cœur ni dans le foie comme les Romains que les Hébreux cherchaient les présages. C'était dans la disposition du cerveau et dans la figuration des lettres qui y sont tracées par la main toute puissante de la destinée. » « Oui, madame, je l'ai entendu dire par un vieux rabbin de mes amis. Il y a, dit Catherine, des caractères ainsi dessinés qui ouvrent toute une voie prophétique. Seulement les savants chaldéens recommandent... »« Recommandent quoi ?» demanda René, voyant que la reine hésitait à continuer. « Recommandent que l'expérience se fasse sur des cerveaux humains comme étant plus développés et plus sympathiques à la volonté du consultant. Hélas, madame, dit René, votre majesté sait bien que cela est impossible. Difficile, du moins, dit Catherine, car si nous avions su cela à la Saint-Barthélemy, eh, René, quelle riche récolte, hein, le premier condamné, j'y songerai. En attendant, demeurons dans le cercle du possible. La chambre des sacrifices est-elle préparée? Oui, madame. Passons-y. René alluma une bougie faite d'éléments étrangers et dont l'odeur, tantôt subtile et pénétrante, tantôt nauséabonde et fumeuse, révélait l'introduction de plusieurs matières. Puis, éclairant Catherine, il passa le premier dans la cellule. Catherine choisit elle-même, parmi tous les instruments du sacrifice, un couteau d'acier bleuissant, tandis que René allait chercher une des deux poules qui roulait dans un coin, leur œil d'or inquiet. « Comment procéderons-nous ? » « Nous interrogerons le foie de l'une et le cerveau de l'autre. Si les deux expériences nous donnent les mêmes résultats, il faudra bien croire, surtout si ces résultats se combinent avec ceux précédemment obtenus. Par où commencerons-nous ? Par l'expérience du foie. C'est bien, dit René. Et il attacha la poule sur le petit autel à deux anneaux placé aux deux extrémités, de manière que l'animal, renversé sur le dos, ne pouvait que se débattre sans bouger de place. Catherine lui ouvrit la poitrine d'un seul coup de couteau. La poule jeta 3 cris et expira, après s'être assez longtemps débattue. « Toujours 3 cris, murmura Marguerite, 3 signes de mort. » Puis elle ouvrit le corps. « Et le foie pendant à gauche, continua-t-elle, toujours à gauche. Triple mort suivie d'une déchéance. Sais-tu, René, que c'est effrayant ?»« Il faut voir, madame, si les présages de la seconde victime coïncideront avec ceux de la première. » René détacha le cadavre de la poule et le jeta dans un coin. Puis il alla vers l'autre qui, jugeant de son sort par celui de sa compagne, essaya de s'y soustraire en courant tout autour de la cellule, et qui enfin, se voyant prise, s'envola par-dessus la tête de René et s'en alla dans son vol éteindre la bougie magique que tenait à la main Catherine. « Vous le voyez, René, dit la reine, c'est ainsi que s'éteindra notre race. » La mort soufflera dessus, et elle disparaîtra de la surface de la terre. « 3 fils, cependant, 3 fils !» murmura-t-elle tristement. René lui prit des mains la bougie éteinte et alla la rallumer dans la pièce à côté. Quand il revint, il vit la poule qui s'était fourrée la tête dans l'entonnoir. « Cette fois, dit Catherine, j'éviterai les cris, car je lui trancherai la tête d'un seul coup. » Et en effet, lorsque la poule fut attachée, Catherine, comme elle l'avait dit, d'un seul coup, lui trancha la tête. Mais dans la convulsion suprême, le bec s'ouvrit 3 fois et se rejoignit pour ne plus se rouvrir. « Vois-tu, dit Catherine épouvantée, à défaut de 3 cris, 3 soupirs, 3, toujours 3, ils mourront tous les 3. Toutes ces âmes avant de partir comptent et appellent jusqu'à 3. Voyons maintenant les signes de la tête. » Alors Catherine abattit la crête pâlie de l'animal, ouvrit avec précaution le crâne et le séparant de manière à laisser à découvert les lobes du cerveau, elle essaya de trouver la forme d'une lettre quelconque dans les sinuosités sanglantes que trace la division de la pulpe cérébrale. « Toujours !» s'écria-t-elle en frappant dans ses 2 mains. « Toujours !» Et cette fois, le pronostic est plus clair que jamais. « Viens et regarde !» René s'approcha. « Quelle est cette lettre ?» lui demanda Catherine en lui désignant un signe. « Un H, » répondit René. « Combien de fois répété ?» René compta. « 4, » dit-il. « eh bien, est-ce là, je le vois, c'est-à-dire Henri IV ?»« Oh !» gronda-t-elle en jetant le couteau. « Je suis maudite dans ma postérité !» C'était une effrayante figure que celle de cette femme, pâle comme un cadavre, éclairée par la lugubre lumière et crispant ses mains sanglantes. « Il règnera, » dit-elle dans un soupir de désespoir, « il règnera. »« Il règnera, » répondit René, enseveli dans une rêverie profonde. Cependant, bientôt, cette expression sombre s'effaça des traits de Catherine à la lumière d'une pensée qui semblait éclore au fond de son cerveau. « René, » dit-elle en étendant la main vers le Florentin sans détourner sa tête inclinée sur la poitrine, « René, n'y a-t-il pas une terrible histoire d'un médecin de Pérouse qui, du même coup, à l'aide d'une pommade, a empoisonné sa fille et l'amant de sa fille ?»« Oui, madame. Cet amant, c'était, » continua Catherine, toujours pensive, « c'était le roi Ladislas, madame. »« Ah oui, c'est vrai, » murmura-t-elle. « Avez-vous quelques détails sur cette histoire ?»« Je possède un vieux livre qui en traite, » répondit René. « Eh bien, passons dans l'autre chambre, vous me le prêterez. » Tous deux quittèrent alors la cellule dont René ferma la porte derrière lui. « Votre majesté me donne-t-elle d'autres ordres pour de nouveaux sacrifices ?» demanda le Florentin. « Non, René, non, je suis pour le moment suffisamment convaincu. Nous attendrons que nous puissions nous procurer la tête de quelques condamnés, et le jour de l'exécution, tu en traiteras avec le bourreau. » René s'inclina en signe d'assentiment, puis il s'approcha, sa bougie à la main, des rayons où étaient rangés des livres, monta sur une chaise, en prit un, et le donna à la reine. Catherine l'ouvrit. « Qu'est-ce que cela ? » dit-elle. « De la manière d'élever et de nourrir les tiercelets, les faucons et les gerfaux, pour qu'ils soient braves, vaillants et toujours prêts au vol. »« Oh, pardon, madame, je me trompe, ceci est un traité de vénerie fait par un savant lucquois pour le fameux Castruccio Castracciani. Il était placé à côté de l'autre, relié de la même façon, je me suis trompé. C'est d'ailleurs un livre très précieux. Il n'en existe que 3 exemplaires au monde, un qui appartient à la bibliothèque de Venise, l'autre qui avait été acheté pour votre aïeul Laurent et qui a été offert par Pierre de Médicis au roi Charles VIII lors de son passage à Florence, et le troisième que voici. Je le vénère, dit Catherine, à cause de sa rareté, mais n'en ayant pas besoin, je vous le rends. Et elle tendit la main droite vers René pour recevoir l'autre, tandis que de la main gauche, elle lui tendit celui qu'elle avait reçu. Cette fois, René ne s'était pas trompé, c'était bien le livre qu'elle désirait. René descendit, le feuilleta un instant et le lui tendit tout ouvert. Catherine alla s'asseoir à une table, René posa près d'elle la bougie magique et, à la lueur de cette flamme bleuâtre, elle lut quelques lignes à mi-voix. « Bien, dit-elle en refermant le livre, voilà tout ce que je voulais savoir. » Elle se leva, laissant le livre sur la table et emportant seulement, au fond de son esprit, la pensée qui y avait germé et qui devait y mûrir. René attendit respectueusement, la bougie à la main, que la reine, qui paraissait prête à se retirer, lui donna de nouveaux ordres ou lui adressa de nouvelles questions. Catherine fit plusieurs pas, la tête inclinée, le doigt sur la bouche et en gardant le silence. Puis, s'arrêtant tout à coup devant René et relevant sur lui son œil rond et fixe comme celui d'un oiseau de proie, « Avoue-moi que tu as fait pour elle quelques filtres, » dit-elle. « Et pour qui ?» demanda René en tressaillant. « Pour la sauve. »« Moi, madame, » dit René, « jamais. »« Jamais ? Ah, sur mon âme, je vous le jure. » Il y a cependant de la magie, car il l'aime comme un fou, lui qui n'est pas renommé par sa constance. Qui, lui, madame? Lui, Henri, le maudit, celui qui succédera à nos trois fils, celui qu'on appellera un jour Henri IV, celui, cependant, qui est le fils de Jeanne d'Albret. Et Catherine accompagna ces derniers mots d'un soupir qui fit frissonner René, car il lui rappelait les fameux gants que, par ordre de Catherine, il avait préparés pour la reine de Navarre. « Il y va donc toujours ?» demanda René. « Toujours, » dit Catherine. « J'avais cru cependant que le roi de Navarre était revenu tout entier à sa femme. Comédie, René, comédie. Je ne sais dans quel but, mais tout se réunit pour me tromper. Ma fille elle-même, Marguerite, se déclare contre moi. Peut-être elle aussi espère-t-elle la mort de ses frères. Peut-être espère-t-elle être reine de France. » « Oui, peut-être, » dit René, rejeté dans sa rêverie et se faisant l'écho du doute terrible de Catherine. « Enfin, » dit Catherine, « nous verrons. » Et elle s'achemina vers la porte du fond, jugeant sans doute inutile de descendre par l'escalier secret puisqu'elle était sûre d'être seule. René la précéda et quelques instants après, tous deux se retrouvèrent dans la boutique du parfumeur. « Tu m'avais promis de nouveaux cosmétiques pour mes mains et pour mes lèvres, René, » dit-elle. « Voici l'hiver et tu sais que j'ai la peau fort sensible au froid. Je m'en suis déjà occupé, madame, je vous les porterai demain. Demain soir, tu ne me trouveras pas avant 9 ou 10 heures. Pendant la journée, je fais mes dévotions. Bien, madame, je serai au Louvre à 9 heures. » « Madame de Sauve a de belles mains et de belles lèvres, » dit un ton indifférent Catherine. « Et de quelle pâte se sert-elle ? » Pour ses mains, oui, pour ses mains d'abord, de pâte à l'héliotrope. Et pour ses lèvres, elle va se servir d'un nouvel opiat que j'ai inventé et dont je comptais porter demain une boîte à votre majesté en même temps qu'à elle. Catherine resta un instant pensive. Au reste, elle est belle, cette créature, dit-elle, répondant toujours à une secrète pensée. Et il n'y a rien d'étonnant à cette passion du Béarnais. Surtout dévoué à votre majesté, dit René, à ce que je crois du moins. Catherine soupira et haussa les épaules. Lorsqu'une femme aime, dit-elle, est-ce qu'elle n'est jamais dévouée à un autre qu'à son amant? Tu lui as fait quelques filtres, René. Ah, je vous jure que non, madame. Ah, c'est bien, n'en parlons plus. Montre-moi donc cet opiat nouveau dont tu me parlais et qui doit lui faire les lèvres plus fraîches encore et plus roses. René s'approcha d'un rayon et montra à Catherine 6 petites boîtes d'argent de la même forme, c'est-à-dire rondes, rangées, les unes à côté des autres. « Voici le seul filtre qu'elle me demandait, » dit René. « Il est vrai, comme le dit votre majesté, que je l'ai composé exprès pour elle, car elle a des lèvres si fines et si tendres que le soleil et le vent les gercent également. » Catherine ouvrit une de ses boîtes. Elle contenait une pâte du carmin le plus séduisant. « René, dit-elle, donne-moi de la pâte pour mes mains, j'en emporterai avec moi. » René s'éloigna avec la bougie et s'en alla chercher dans un compartiment particulier ce que lui demandait la reine. Cependant, il ne se retourna pas si vite qu'il ne crut voir que Catherine, par un brusque mouvement, venait de prendre une boîte et de la cacher sous sa mante. Il était trop familiarisé avec ces soustractions de la reine-mère pour avoir la maladresse de paraître s'en apercevoir. Aussi, prenant la pâte demandée, enfermée dans un sac de papier fleur-de-lysé, « Voici, madame, » dit-il. « Merci, René, » reprit Catherine, puis, après un moment de silence, « ne porte cet opiat à madame de Sauve que dans 8 ou 10 jours. Je veux être la première à en faire l'essai. » Et elle s'apprêta à sortir. « Votre majesté veut-elle que je la reconduise ?» dit René. « Jusqu'au bout du pont seulement, » dit Catherine, « mais gentilhomme m'attend là avec une litière. » Tous deux sortirent et gagnèrent le coin de la rue de la Barillerie, où 4 gentilshommes à cheval et une litière sans armoirie attendaient Catherine. En rentrant chez lui, le premier soin de René fut de compter ses boîtes d'opia. Il en manquait une.